Ne savez-vous pas, écrit l'apôtre Paul, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous lisons cela en 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16. En fait, de même que Dieu avait fait autrefois sa demeure dans le temple ou encore dans le tabernacle dans le désert, eh bien, de la même façon, maintenant, le Saint-Esprit aujourd'hui se trouve à demeure dans l'homme. Dieu tabernacle dans l'homme régénéré, dans l'homme qui a mis sa foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Vous vous souvenez que le temple ou le tabernacle dans le désert, c'est peut-être plus facile à retrouver cette image, se divisait donc en trois parties. Il y avait la première qui était le parvis, ce qu'on appelait le parvis extérieur. Le parvis était entouré pour le tabernacle dans le désert, était entouré de rideaux qui étaient tendus entre des piliers. Et puis il y avait une porte par laquelle, une porte qui était formée par bien sûr encore des rideaux. Et cette porte permettait en fait au peuple d'Israël, aux adorateurs d'Israël, aux adorateurs hébreux, de venir apporter leur sacrifice qu'ils offraient à l'Éternel, puisque l'adoration se situait dans ces offrandes qui étaient faites à Dieu. Donc le parvis extérieur était vu de tous et était visité par tous. Et dans ce parvis, pas très loin de l'entrée, se trouvait l'autel d'airain sur lequel on faisait brûler les sacrifices que les fils d'Israël apportaient, que ce soit des sacrifices pour le péché, que ce soit les holocaustes qui étaient de l'adoration, que ce soit les sacrifices de communion ou autres offrandes. Lorsque on avançait un peu plus loin dans ce parvis, on trouvait la maison même de Dieu, c'est-à-dire le lieu saint et le lieu très saint. Alors si dans le parvis tous les Hébreux pouvaient entrer, hommes et femmes aussi, eh bien dans la maison même, c'est-à-dire dans le lieu saint et le lieu très saint, ne pouvaient rentrer que certaines personnes. Dans le lieu saint, tous les sacrificateurs entraient pour s'occuper du chandelier, puisque dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait la table avec les pains, et il y avait l'autel de parfum, donc on offrait le parfum. Donc c'était les sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer dans cette première partie de la maison. Et la deuxième partie de la maison, eh bien, c'était le lieu très saint. Et là, il y avait l'arche de l'Alliance qui faisait comme un coffre, mais en même temps, il y avait les anges qui couvraient. Ça faisait comme un siège, c'était comme un trône royal. Et c'était là où Dieu se rencontrait avec le souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an dans ce lieu très saint pour officier le jour de ce que l'on appelle encore maintenant le Yom Kippour, le jour des propitiations, le jour des expiations. C'était donc seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Vous savez que à la mort de Jésus-Christ, à la croix, lorsque le Seigneur a rendu son esprit, il est dit que le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut. C'était le voile. On dit voile, mais c'était un rideau d'à peu près une douzaine de centimètres qui avait à peu près une hauteur de 4 mètres de haut, qui s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et on voit bien à cela que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre des hommes, parce que il y a une anecdote qui racontait que même si on avait attaché des chevaux au galop de chaque côté du voile, de chaque côté de ce rideau, il n'aurait pas pu se déchirer, tellement il était donc épais. Et ce voile, qui représente la chair de Jésus-Christ, a été déchiré, il a souffert à la croix, et il nous a ouvert le chemin nouveau et vivant à travers le voile. Nous trouvons ça dans l'Épître aux Hébreux. Je vous renvoie à cette lecture. Il nous a ouvert l'accès à Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, l'accès à Dieu était interdit, sauf le jour du Yom Kippour et dans des conditions très très particulières. Le souverain sacrificateur pouvait entrer, mais aucun Israélite ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Eh bien, à la mort du Seigneur Jésus, le Saint des Saints a été ouvert, c'est-à-dire que nous avons un libre accès pour aller à Dieu, pour lui parler directement et l'entendre nous parler. L'homme, donc, est aussi le temple de Dieu maintenant. L'homme régénéré, bien sûr. Il est la maison de Dieu. Il devient la maison de Dieu et Dieu peut tabernacler. Et on voit que, par analogie, bien lui aussi, l'homme comprend trois parties. Le corps, on peut l'assimiler au parvis, en fait, du dehors. Il occupe une position extérieure. La vie du corps est visible à tous. Et c'est dans le corps que l'homme doit obéir au commandement de Dieu. Mais c'est aussi dans le corps que le Fils de Dieu va venir, il va s'incarner pour servir de substitut à notre place et il meurt pour l'humanité entière. Dans le corps, bien, on trouve l'âme de l'homme. L'âme, c'est-à-dire la personnalité de l'homme, c'est sa vie intérieure et on peut grouper sous le terme de âme trois grandes fonctions de la personne qui détermine, je dirais, une personne, eh bien, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions, les sentiments. C'est les trois grandes facettes de la personne humaine, qui est visible aussi par les autres, moins peut-être visible que le corps, qui est une évidence, mais la personne se reconnaît à ces grandes fonctions d'intelligence, de volonté, de capacité de choix et de décision, et de ses émotivités, de ses émotions, pardon. Et alors, tout à fait à l'intérieur, donc, l'âme correspond au lieu saint. Hein, le lieu saint, je vous rappelle, il y avait le chandelier, la table avec les pains, c'était la table de communion, et l'autel des parfums, où les sacrificateurs faisaient brûler des parfums. Vous savez que l'encens, c'est un parfum. Nos prières sont des parfums. Ils s'élèvent comme l'encens. Donc ça, c'est le lieu saint. Et ça correspond, on peut dire, à notre âme, en quelque sorte. Notre âme. Et puis le lieu très saint, tout à fait à l'intérieur, derrière le voile, le Saint des Saints. Il n'y a aucune lumière dans ce Saint des Saints. Dans le lieu saint, il y a le chandelier qui éclaire, mais dans le lieu très saint, ou le Saint des Saints, il n'y avait aucune lumière, c'était simplement la lumière de Dieu, en quelque sorte, qui rayonnait. C'est ce qu'on va appeler dans les psaumes l'abri du Très-Haut, l'habitation de Dieu. Et en fait, Dieu ne peut pas être touché par l'homme, à moins que ce soit lui-même comme il l'a fait à la mort du Seigneur Jésus, soit lui-même qui déchire ce qui nous sépare de lui. Et cela correspond donc à l'esprit de l'homme. Dieu a accès à l'esprit de l'homme, directement. Directement, Dieu a accès à l'esprit de l'homme. Et il le voit, il donne un esprit nouveau dans la Nouvelle Alliance qui lui permet de siéger, j'irais dire, dans l'homme. Puisque l'homme devient l'habitation de Dieu, l'être humain devient le temple de Dieu. Non pas l'être humain non régénéré, je le redis bien encore, mais l'être humain qui a fait un choix de vie, un choix pour Jésus. Donc c'est dans cet esprit de l'homme que l'homme va pouvoir communier avec Dieu. Nous l'avons vu dans les précédents enregistrements. L'homme va pouvoir communier avec Dieu par son esprit. C'est là, dans son esprit, que l'homme s'unit à Dieu et communie avec lui. Comme Dieu demeure, comme Dieu demeure dans le Saint des Saints, il n'y a pas besoin de l'éclairer, puisqu'il est lui-même lumière. Il faut bien réaliser que le tabernacle qui avait été construit par Moïse dans les déserts avait un modèle qui est le modèle des réalités célestes. C'est-à-dire que quand vous considérez le tabernacle dans le désert, ou le temple après, mais c'est plus sensible dans le tabernacle, vous avez un reflet de l'organisation du ciel. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Les lieux célestes, où se situent les puissances de ténèbres, les lieux célestes. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre, qui sont dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 10. Puis vous avez le lieu saint, qui sont les lieux célestes où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus, c'est le lieu saint. Ne rentrent dans ce lieu saint que ceux qui sont sacrificateurs et personne d'autre. Et puis, il y a ce que Paul a vu, là où il est allé, dont il parle très peu sans pouvoir même mettre des mots clairs dessus, ben c'est le ciel, le troisième ciel, le ciel de Dieu, les cieux des cieux, en quelque sorte, où Dieu demeure, où Dieu lui-même demeure, où le trône de Dieu se trouve. Alors, l'âme ressemble effectivement au lieu saint parce que finalement elle est abondamment éclairée par de nombreuses pensées rationnelles. Dans le lieu saint, il y a le chandelier qui éclaire. Et c'est vrai que notre âme est éclairée par des pensées rationnelles, des préceptes, une connaissance, une compréhension. Lorsque nous lisons les Écritures, c'est d'abord notre âme qui est interpellée et nous avons besoin, après, d'avoir la révélation de l'Esprit Saint à notre esprit pour saisir ce que Dieu va nous dire. Mais nous lisons et quand nous lisons, c'est d'abord dans notre intelligence que nous entendons, que nous comprenons le sens des Écritures. Mais nous avons besoin de cette révélation de Dieu par son esprit, à notre esprit, pour comprendre la pensée de Dieu complète. Le corps donc est comparable au parvis extérieur, qui est donc visible par tous, nous l'avons vu. Je n'ai pas m'y étendre trop. Alors, ça c'est l'ordre divin. Ça c'est l'ordre divin. Et par cet ordre que nous voyons, nous pouvons comprendre, ou disons au moins appréhender cette sagesse de Dieu manifestée dans les Écritures. Et n'oubliez pas que les Écritures, tout l'Ancien Testament, parle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il y a une harmonie parfaite qui existe entre le temple et l'homme, à la fois sous le côté de sa position et aussi du côté de sa valeur. Et le service dans le temple était, bien sûr, dans le temple, dans le tabernacle, était réglé par les lois de Dieu. Nous trouvons tout cela dans le livre de Lévitique. C'est la révélation de Dieu, c'est donc la révélation du Saint des Saints qui nous permet de fonctionner de façon juste comme Dieu le veut. C'est donc la révélation de Dieu à notre esprit qui va nous permettre de marcher par l'esprit tel que Dieu lui le veut, pas tel que nous pensons qu'il le veut, mais tel que lui le désire. Tel que lui le désire. Alors, il faut aussi comprendre que les activités dans le parvis, tout ce qui se passait dans le parvis, et je vous renvoie au livre du Lévitique, encore une fois, tout ce qui se passait dans le parvis, en fait, est géré et contrôlé par les sacrificateurs du lieu saint. Notre corps ne peut pas, notre corps correspond au parvis, notre corps ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit être soumis à notre âme qui elle-même reçoit tous les ordres de notre esprit. Le lieu saint, le lieu très saint, contrôle en fait toute la maison. Notre esprit doit contrôler toute notre maison. Donc je crois que c'est pas très difficile en fait de percevoir cette application spirituelle de cet ordre des choses. L'âme, c'est l'organe de notre personnalité, donc contient, est composé de l'entendement, de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Et en quelque sorte, c'est comme si c'était l'âme qui contrôlait toutes les actions, car c'est j'irais dire, à ces directions qu'obéit le corps. Mais avant la chute, l'âme était gouvernée par l'esprit. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est d'abord l'esprit, ensuite l'âme, en dernier lieu, le corps. Et c'est ce qui permet, en quelque sorte, une véritable marche dans l'esprit quand nous respectons cet ordre-là tel que Dieu l'a voulu. Tel que Dieu l'a voulu. L'âme, c'est gonflé, j'irais dire. C'est enorgueilli après la chute. C'est l'âme qui a pris la direction. C'est l'âme qui a fait les choix et qui a appris cette connaissance du bien et du mal. Alors que, en fait, Dieu, souvenez-vous, a dit quelque chose de très important. Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Notre esprit est attiré par la vie de Dieu. Lorsque nous rencontrons Dieu, il agit comme un aimant et notre esprit est attiré par ce choix de vie. Choisis la vie afin que tu vives. Nous n'avons pas à regarder, à choisir entre le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre dont l'homme ne devait pas manger. L'homme avait cet ordre de Dieu de manger de tous les arbres du jardin, et spécialement de l'arbre de la vie qui était au centre du jardin. Mais il ne devait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nos vies ne sont pas gérées, ne devraient pas être soumises à un choix entre ce qui est bien et ce qui est mal, parce que nous allons faire ce choix en fonction de nos critères, des critères que nous aurons intégrés dans nos vies, alors que le choix que nous avons à faire, et c'est le seul choix que Dieu nous demande de faire, c'est de choisir la vie. Il place devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Choisis la vie afin que tu vives. Donc encore une fois, je crois que c'est la chose qu'il faut vraiment garder en pensée. Nous n'avons pas, notre vie n'est pas faite entre, notre vie n'est pas dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, pour marcher par l'esprit et dans l'esprit. Car c'est ce que Dieu nous ordonne, marcher par l'esprit. Eh bien, pour marcher par l'esprit, nous sommes placés devant un choix de choisir la vie de Dieu. Choisis la vie afin que tu vives.